Bonjour et merci d'être fidèle au grand face-à-face de France Inter chaque samedi. Dans un instant, retour sur l'actualité de la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat, jusqu'où nos libertés, jusqu'où la vie démocratique sont-elles menacées par le progrès technique? La démocratie, les droits de l'homme pourront-ils survivre aux avancées de la révolution de l'intelligence artificielle? Si un algorithme connaît mieux que moi-même et me propose des choix plus rationnels que je n'aurais pu faire? Si une myriade d'objets connectés préhente ma capacité de décision en m'offrant une existence déterminée et confortable, si je cesse peu à peu d'être l'agent de mes propres actions, pourquoi aurais-je besoin d'un droit de vote ou serais-je soumis à la moindre responsabilité pénale? Fin de citation. Ces questions passionnantes sont posées par un essayiste, un libéral convaincu, Gaspard Koenig, et il les formule dans un essai intitulé « La fin de l'individu » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un libéral convaincu qui se demande ce qui distingue encore Google, pour ne prendre que cet exemple, et le Parti communiste chinois. Rendez-vous donc avec Gaspard Koenig dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Natacha Polony, Gilles Finkelstein, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver en ce samedi pour revenir sur un moment fort et l'une des réformes les plus importantes du quinquennat.
L'objectif, c'est bien de créer un système universel dans lequel chaque euro cotisé par chaque Français produit le même effet. Ce qui est un élément de justice extrêmement important, ce qui permet aussi pour beaucoup de Français de passer d'un métier à l'autre, d'un statut à l'autre, sans subir les aléas au moment de sa retraite.
Le Premier ministre Édouard Philippe sur un plateau du 20h ce jeudi pour détailler cette réforme, celle des retraites, l'un des sujets les plus compliqués, les plus inflammables du débat public. Il avait pour vocation surtout de rassurer, Gilles. Est-ce qu'il y est parvenu?
Je ne sais pas s'il avait vocation à rassurer. En tout cas, c'était très clairement son objectif. Il est resté dans la partition qui était celle du rapport de Levoy. Il n'a en réalité rien dit de plus ou rien dit de moins ou pas grand-chose. En revanche, l'interprétation qu'il en a donnée était une interprétation dont toute la volonté était d'apaiser, en montrant notamment que cette réforme s'inscrivait dans un temps qui était très long pour la maison commune, c'est-à-dire pour les principes généraux et tous les salariés qui sont aujourd'hui dans le régime général, et plus long encore pour les régimes spéciaux qui ont vocation à se fondre dans cette maison commune.
Donc, et à disparaître, l'objectif, on parle de 2025-2040.
Oui, l'objectif était celui-là, mais il y a un point sur lequel il est allé peut-être un peu plus vite et un peu plus dur, qui est le court terme. C'est un peu le paradoxe. Il était apaisant sur le long terme, mais peut-être plus inquiétant sur le court terme, puisque il est revenu sur la nécessité, qui peut se discuter, que le régime soit en équilibre dès 2025.
Natacha?
Oui, je pense que l'objectif était avant tout d'éteindre l'incendie possible. Simplement, il faut comprendre que la question d'une réforme des régimes de retraite, c'est une équation. Et on peut jouer sur plusieurs éléments. C'est totalement mathématique. En gros, il y a l'âge de départ, il y a la question des cotisations. Ce sont des curseurs. On joue sur les uns ou sur les autres pour arriver à un résultat. Sachant que, évidemment, si on se reporte à toutes les déclarations...
Mais est-ce que vous ne réfléchissez pas à l'ancien monde?
Alors justement, je vais y venir.
Parce que vous dites qu'on est face à une nouvelle équation.
Justement. Je vais y venir. D'abord, premier point, sur l'ensemble des déclarations qui ont été faites jusqu'à présent, depuis des décennies, sur l'éventualité d'un régime à points, on constate que le but, c'est de pouvoir jouer sur la valeur du point. Deuxième point, il y aurait possibilité de jouer sur d'autres facteurs. Et c'est ça, c'est ce débat-là dans lequel on n'entre jamais, et c'est ce qui me frappe.
Exemple.
On parle de réforme des retraites, mais on ne regarde pas ce qui est extérieur aux retraites et qui jouerait forcément sur la question des retraites. Alors, premier point, on pourrait décider d'étatiser les retraites, ce qui permettrait en fait de, par exemple, de les faire rentrer dans le budget de l'État, de faire éventuellement, en cas de taux négatif, de la dette pour cela, et donc d'investir sur d'autres choses. Ce serait une des possibilités. Et puis, de toute façon, ce qui joue sur les retraites, c'est le chômage de masse, c'est le nombre de cotisants, en fait. Donc, le sujet majeur, c'est la réindustrialisation, c'est la façon dont on recrée de l'emploi. Et puis, il y a autre élément sur lequel on pourrait discuter, la question de l'âge d'entrée sur le marché du travail, qui là aussi retarde d'autant. Donc, vous voyez, il y a des tas d'autres facteurs qui, en fait, sont absolument essentiels, mais qui sont laissés de côté.
Gilles?
Oui, c'est une équation, et c'est une équation à beaucoup d'inconnus. et même à tellement d'inconnus que c'est un des risques du système actuel et a fortiori un des risques du débat tel qu'il s'engage, c'est que tout ça finisse par être clair comme du jus de chic.
C'est-à-dire
très visuel comme image, hein, moi je l'ai.
C'est vrai.
On chic un peu moins, mais le jus de chic est sombre.
Donc voilà.
Merci
donc,
pour la précision.
Clair comme du jus de chic, ça veut dire que ça l'est relativement peu. Oui, il y a d'autres sujets dont il faut discuter, disons qui sont l'environnement du système des retraites, mais par exemple la question du cumul emploi-retraite qui est une de ces questions-là, et de savoir comment on peut, de manière plus progressive, passer à la retraite tout en cumulant un emploi, ça fait partie du champ de la discussion qui a été ouvert par le...
Mais
par
c'était
le
une promesse du candidat Emmanuel Macron, ce
oui.
système de
Attends,
points,
je reviens juste sur l'autre point, sur étatisation. Si étatisation, il y a le risque que vous évoquez, Natacha. Le système à points, ça n'a en réalité pour seule vocation de pouvoir jouer sur le point, et donc il y a une incertitude. Si vous étatisez le système, cette incertitude, elle est plus forte encore, parce que le risque que le système de retraite soit la victime des arbitrages budgétaires est beaucoup plus forte. Donc moi, je préfère un système.
Ce que vous voulez dire, c'est que si ça relève de l'État, un gouvernement, par exemple, un changement de majorité,
et par les partenaires sociaux, ça me paraît pour les salariés une garantie plus importante.
Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce que malgré tout, on va en débattre, on doit en débattre, ou est-ce que l'élection présidentielle a tranché le problème?
Alors, je pense qu'il faut arrêter de croire que l'élection présidentielle tranche tous les problèmes. Ce n'est pas parce que les gens ont voté pour un candidat à l'élection présidentielle qu'ils sont d'accord avec l'ensemble du programme, voire avec ce programme en général. Nous le savons, il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte, surtout quand le Front National, enfin le Rassemblement National, entre en jeu. Donc, cette question des retraites mérite d'être débattue. Après, c'est vrai que c'est assez étonnant la stratégie qui consiste à dire on a fait une concertation avec Jean-Paul Delevoye, donc ça va nous permettre de faire une nouvelle concertation, ça devient très compliqué.
Oui, il faut en débattre. Dire on passe à un système par points, c'est une petite partie, une toute petite partie, on a réglé 1% des sujets avec ça, les 99 autres %, il faut s'y engager, et je crois que les Français ont intérêt à s'engager dans ce débat-là pour peser.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Our European way of life is holding up our values, and the beauty of the dignity of every single human being is one of the most precious values.
La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle déclarait, je fais la traduction, « Notre mode de vie européen, c'est s'accrocher à nos valeurs. La beauté de la dignité de chaque être humain est l'une des plus précieuses valeurs. » C'est ce qu'elle disait pour justifier la création d'un nouveau portefeuille ou d'un intitulé du portefeuille du commissaire européen chargé de l'immigration, en faisant le lien avec la protection du mode de vie européen. La formulation a rapidement suscité la polémique et le grec Margaritis Skinas sur Twitter, celui donc qui va occuper cette fonction, il préfère lui se présenter comme le vice-président chargé de la migration, de la sécurité, des droits sociaux, de l'éducation, de la culture et de la jeunesse. Bref, en tout cas, protection du mode de vie européen, ça choque comme... À l'époque, on a pu s'indigner de la création d'un ministère de l'immigration, de l'identité nationale. Comparaison n'est pas raison, ou est-ce qu'on a raison de s'interroger sur cette formulation, Natacha ?
Écoutez, les Américains passent leur temps à nous parler du mode de vie américain, l'American way of life, et qui est utilisé notamment par Donald Trump actuellement pour justifier certaines politiques. Les Européens seraient bien inspirés de réfléchir à ce qui fait la spécificité de l'Europe. En matière, et là ce serait quand même beaucoup plus intéressant que l'American way of life. Les écolos ont tout de suite dit, mais quel scandale, le mode de vie européen, c'est de consommer trois planètes. Alors, ils ont raison, si ça se limite à consommer trois planètes quand les autres n'ont plus rien, ça n'est pas la peine de défendre ça. Mais le mode de vie européen, il est l'héritier d'une histoire intellectuelle qui relève de l'humanisme et des Lumières. Mais sauf que c'est pas ça du tout. En fait, qu'on trouve dans la lettre de mission, il faut la lire, la lettre de mission envoyée par Ursula von der Leyen à ce commissaire. Il est question essentiellement de la façon dont on va réguler une immigration choisie pour permettre de faire tourner la machine économique. C'est ça le principe. On va faire plaisir, c'était exactement d'ailleurs les demandes du patronat allemand en 2015 auprès d'Angela Merkel. Il s'agit de savoir si on va pouvoir avoir des immigrés qui ont des compétences parce qu'on en a besoin. Là, du coup, c'est peut-être un petit peu pauvre.
Gilles, oui, il y a des choses positives dans cette commission, puisqu'on se concentre là-dessus et je vais y revenir.
Mais d'abord quand même sur la polémique avant d'en
arriver. Je commence par la polémique avant d'en venir à ce qui est plus positif.
Oui.
Il y a un modèle européen. Ça fait des semaines qu'on en parle ici. Je crois qu'il y a un modèle européen qui est composé du libéralisme politique, de l'économie régulée de marché, de solidarité sociale, de diversité culturelle, et que ce modèle, l'Europe doit le préserver. De ce point de vue-là, que Ursula von der Leyen présente la Commission comme une commission géopolitique, c'est-à-dire qui se tourne vers l'extérieur, me paraît quelque chose de positif. Donc il y a un modèle européen.
Il y a un modèle européen.
Attendez, Ali. Est-ce qu'il y a un mode de vie européen ? Là, ça commence à être plus discutable. Il y a sans doute beaucoup de modes de vie européens différents à l'intérieur et même entre les pays européens. Et est-ce qu'il y a un mode de vie européen à préserver ou plutôt un mode de vie européen à transformer ? Là aussi, je pense que ça mérite une discussion. Et en tout état de cause, assimiler le mode de vie à la seule question de l'immigration, je crois que c'est une faute. C'est une faute qui était en réalité un message volontaire. Ils n'ont pas fait ça par inadvertance, parce que Ursula von der Leyen a un problème de majorité, elle a un problème à droite et elle a un problème à l'Est. Et que pour faire passer sa commission, elle a envoyé ce signal-là, mais je crois que l'histoire n'est pas terminée.
Mode de vie européen, Natacha, quand vous entendez les réserves émises par
Non, mais je
Gilles,
comprends tout à fait.
Le mode de vie d'un Bulgare et celui d'un habitant de Mayfair à Londres, par exemple?
Mais il faut se placer en dehors de l'Europe pour comprendre ce qu'il y a de commun entre le mode de vie d'un Bulgare et celui d'un habitant de Londres. Il y a des choses, évidemment, des différences majeures, mais il existe une civilisation européenne. Et pour ma part, j'ai tendance à croire que la civilisation, l'histoire des idées, se lise ensuite dans ce que moi j'appellerais plutôt la façon d'être au monde et une certaine vision de la liberté humaine. Et bien sûr que c'est très variable, encore une fois, quand on est en Europe, c'est très variable. Vis-à-vis de l'extérieur, il y a un point commun qui relève de toute l'histoire intellectuelle et culturelle de l'Europe. Mais je le répète, ce n'est absolument pas ça qui est mis en avant dans la lettre de mission. Et je pense que la question à se poser serait en effet de réfléchir de façon beaucoup plus large que simplement sur le rapport à l'immigration. En revanche, je ne verrai rien de gênant à réfléchir à la question majeure de l'intégration. Or, elle est systématiquement laissée de côté et c'est bien dommage.
Gilles, vous vouliez aussi dire du bien donc de cette Commission européenne, cette nouvelle future Commission européenne.
Oui, on s'est, et je crois à raison, concentré sur cet intitulé que je trouve extrêmement contestable. Une Commission européenne, c'est très compliqué à composer. C'est pas la même chose qu'un Premier ministre qui compose son gouvernement, puisque la présidente de la Commission voit les différents États membres, chacun nommer leur propre commissaire. Et donc dans cet exercice qui est un exercice plus difficile, dans ce qui est, je crois, positif, c'est la première fois que la commission est paritaire ou quasi paritaire. C'est une commission qui, parce qu'elle est à 27, donc qui est une commission très large, est mieux organisée, plus hiérarchisée. Je pense que ce sera plus efficace. Et puis il y a un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités fortes. Je pense évidemment à Margrethe Vestager ou Frans Timmermans, qui sont les deux principaux vice-présidents exécutifs.
Margrethe Vestager, qui sont des survivants de l'ancienne commission. Frans Timmermans, qui était l'un des vice-présidents et des plus proches collaborateurs de Jean-Claude Juncker.
Oui. Et alors, absolument.
En effet, il n'y a rien de plus à ajouter parce qu'en effet, ça dit tout. C'est-à-dire qu'on voit très bien ce qui va se passer.
Il y avait un équilibre politique, il y avait la volonté, par exemple, de la gauche française de ne surtout pas voir Frans Timmermans s'occuper des responsabilités aussi importantes. Et le résultat, c'est qu'il est toujours à son poste.
Mais ça ne dit absolument rien. Frans Timmermans est un social-démocrate, après on peut le qualifier si vous voulez de social-libéral, et je pense que les sociaux-démocrates européens auraient préféré que ce soit lui qui soit président de la Commission plutôt qu'Ursula von der Leyen, qui est une démocrate chrétienne allemande. Bon, donc après, tout le monde peut trouver que un tel n'est pas suffisamment à gauche, mais voilà, la réalité politique de l'Europe est celle-là. Frans Timmermans a un portefeuille extrêmement important puisque c'est lui qui va s'occuper de la transition environnementale.
Natacha, encore un mot et on va changer de sujet.
On peut craindre en effet que cette commission, même si on sent certaines prises de conscience, certains ajustements, que cette commission perpétue les erreurs majeures qui ont été celles des commissions différentes sur la question de tout simplement de la perpétuation ou non du libre-échange absolu, sur la capacité à transformer l'Europe en une puissance qui protège ses citoyens. Ça, pour l'instant, on peine quand même à voir les changements majeurs. J'ajoute pour ma part que je trouve effarant que Emmanuel Macron éprouve le besoin, alors qu'il y avait possibilité de faire avancer justement ce projet d'une Europe puissance, qu'il éprouve le besoin de nommer à la Commission Sylvie Goulard, qui est justement une des femmes politiques qui a le plus affirmé qu'elle se sentait européenne davantage que française et qui a toujours arbitré en fonction des demandes qui étaient celles tout simplement de l'Allemagne. D'ailleurs, elle a copié-collé un amendement du texte d'un lobby bancaire allemand. Tout cela s'accumule pour montrer qu'il y a peu de chances qu'elle défende la vision d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Je trouve ça quand même dommage. C'est aberrant.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
C'était cette semaine aussi, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, quatrième personnage de l'État, était mis en examen dans le cadre d'une enquête ouverte sur des soupçons de prise illégale d'intérêt dans ses anciennes fonctions quand il était directeur des mutuelles de Bretagne entre 1998 et 2002. Jeudi matin, le président de la République lui a apporté son soutien. Il avait déjà dû quitter son poste de ministre de la cohésion des territoires après la révélation de cette affaire par le Canard enchaîné au tout début du quinquennat. Est-ce que vous comprenez encore une fois le retour éternel de la question de la démission d'un ministre, en l'occurrence il ne l'est plus, mis en examen?
Ce que je comprends surtout, c'est que c'est assez peu compréhensible. Je ne vois pas comment un Français, un citoyen, peut comprendre ce qui est en train de se passer. Comment on peut expliquer qu'un ministre, alors même qu'il n'est pas mis en examen, démissionne, et que le président de l'Assemblée nationale, alors qu'il est mis en examen, ne démissionne pas. Donc, oui. En revanche, on peut s'interroger sur le point de savoir si on doit démissionner lorsqu'on est mis en examen. C'est un autre débat. Ce débat-là, il a commencé à être posé il y a 20 ans. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence Balladur, même si ça avait commencé avant, où on était dans un moment dans lequel le temps politique, le temps démocratique, était un temps qui était plus long que le temps médiatique. Et on a voulu accélérer le temps politique en le calant sur le temps médiatique. Et donc, on a adopté ce principe-là. Aujourd'hui, le temps médiatique est encore plus rapide avec les réseaux sociaux. La question est de savoir si il faut continuer à essayer de se caler sur le même rythme, voire quitte à démissionner alors même qu'on n'est pas mis en examen comme François de Rugy, ou est-ce qu'il faut reprendre du champ? Ça, c'est un vrai débat de fond. En tout cas,
vous
ce qui est sûr, c'est que dans la situation actuelle, c'est absolument incompréhensible.
Vous avez une réponse pour ce qui vous concerne ?
Je pense que sur le fond, on peut pas dire une mise en examen ne signifie et il faut garantir la présomption d'innocence et systématiquement démissionner. En revanche, je ne suis pas sûr que dans le climat actuel, ce soit quelque chose de tenable.
Natacha.
Je pense que ce n'est pas tenable et que l'argument qui est en général c'est pas tenable en général de rester. L'argument qui est mis en avant d'ailleurs assez souvent est de dire mais peut-on réellement exercer sereinement son travail de ministre quand on est mis en examen, qu'on doit organiser sa défense dans un contexte de violence médiatique qui est de plus en plus fort. Je pense que la question doit sans doute se poser dans ces termes, quelle que soit l'injustice que cela peut constituer. Mais surtout, là, enfin, et puis, je pense après qu'il y a différents degrés de gravité et dans les affaires qui peuvent concerner des politiques. Là où je rejoins Gilles, c'est que là, en l'occurrence, c'est totalement, mais totalement hallucinant. Et je pense que c'est une erreur de la part, par exemple, du Premier ministre d'expliquer sur le plateau de TF1. En gros, je ne parle pas en tant que Premier ministre au président de l'Assemblée, mais en tant qu'Édouard Philippe à Richard Ferrand, il est mon ami, etc. Ça envoie quel message ?
Gilles.
Alors, je suis pas convaincu par l'argument que vous avez repris à votre compte que celui qui est mis en examen doit organiser sa défense et que donc ça empiète sur sa capacité à exercer ses fonctions. François Bayrou a mis 2 ans avant d'être pour la première fois auditionné. On ne peut pas dire que pendant 2 ans, il a préparé seulement ce rendez-vous-là. En revanche, c'est moins dans l'organisation de son propre temps que dans le regard qui est porté sur lui par les autres.
Évidemment.
Donc ça c'est une vraie question. Peut-on rester ministre en étant ou président de l'Assemblée nationale en étant mis en examen ? Par rapport aux autres, ça, et par rapport à l'institution, ça c'est une autre question.
Je vais vous dire qu'on se pose la question sur le président de l'Assemblée nationale, alors qu'on visiblement ne se la pose plus pour les ministres, nous rappelle tout de même qu'il y a une dévalorisation de l'Assemblée nationale qui est profondément tragique. Après, je m'interroge sur le fait de savoir si Richard Ferrand serait président de l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas une telle dévalorisation de l'Assemblée nationale.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ces enfants.
Vous avez peut-être reconnu la voix de celui qui était le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, en 1989. C'est un sujet qui vous tient à cœur à tous les deux. Il est en couverture de Marianne cette semaine, quand la République a capitulé à Creil, il y a 30 ans, la première affaire de voile. Natacha, il est au centre d'une étude de la Fondation Jean Jaurès, Les foulards de la discorde, qui est publiée en coédition avec les éditions de l'Aube. Un anniversaire à célébrer, à oublier. On va voir ça. C'était il y a 30 ans, on va juste rappeler les faits, 30 ans, 1989, l'exclusion de 3 collégiennes qui refusaient d'enlever leur voile en classe. Du coup, cette affaire a provoqué des mois de débats politiques, intellectuels, juridiques. Ça se passait à Creil, dans l'Oise. Le foulard s'est invité comme sujet de débat principal dans notre pays. Et 2 mois plus tard, donc, le Conseil d'État, qui était sollicité par le ministre de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin, rendait son verdict. Que je résume en substance, tant qu'il n'y a pas d'acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, tant que le port du voile ne perturbe pas le déroulement des activités, alors l'expression des convictions religieuses ne peut pas être interdite à l'école. C'était il y a 30 ans. Pourquoi est-ce que l'un et l'autre, vous avez voulu revenir dessus, Natacha ?
Parce que je pense que ça, c'est en fait le premier élément de ce qui a totalement déstructuré notre paysage idéologique et politique, parce que cette question-là a remis en cause ce qui était notre pacte politique, qui est fondé sur la question de la laïcité, de la République, la chose publique, la façon dont nous organisons aussi l'espace public. Je pense qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire que Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, aurait pu, tout simplement, sortir la circulaire Jean Zay, qui date du Front populaire donc, et qui prescrivait que les signes religieux et politiques, enfin les signes politiques en l'occurrence, étaient interdits au sein des établissements scolaires parce que il fallait protéger l'école des querelles du monde. Donc il pouvait le faire, le débat était réglé immédiatement. Il ne le fait pas.
Il ne le fait pas.
Pour plusieurs raisons. Et c'est ces raisons-là qui sont intéressantes. On est déjà dans une période où finalement la défense de la laïcité et de l'école républicaine n'est plus exactement la même. C'est le même Lionel Jospin qui, quelques mois avant, a fait voter la loi de 1989 sur l'école, qui est une loi qui intitule les élèves des usagers, comme si c'était que l'école n'était plus une institution mais un service public, et qui explique qu'ils ont la liberté d'expression, ce sur quoi s'est appuyé le Conseil d'État pour expliquer que c'était que du coup il n'y avait pas de problème. Et en fait, derrière ça, il y a la conception de l'école républicaine comme moyen de d'émanciper les individus, ce que défendaient les professeurs, qui étaient tous des professeurs de gauche, et qui défendaient ça. Ils sont tombés des nues de se faire traiter de raciste. Pour eux, c'était au contraire par respect pour tous les enfants d'où qu'ils viennent qu'ils agissaient comme ça. Ce débat-là, il est extrêmement important et on n'en est pas encore sorti.
Gilles.
Oui, je crois que c'est intéressant d'y revenir et c'est pour ça que il y a un certain nombre d'historiens qui ont utilisé notamment des archives inédites et puis 30 ans après, quand la passion est un peu retombée, qui ont revisité ce moment-là. Pourquoi ce moment-là ? Parce que c'est un vrai moment fondateur. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et c'est très rare qu'il y ait des événements qui soient à ce point des moments fondateurs.
Mais fondateurs de quoi ?
De deux choses. Un, il y a eu un nouvel objet de débat, le foulard. Et après, sous les différentes formes du foulard, dans différents endroits, le lycée, l'université, la rue, les plages. Depuis 30 ans, le débat public est centré sur cette question-là. 1000 débats, 2 lois, et toujours aucun consensus, ou presque. Donc un nouvel objet de débat, et Natacha l'a dit, et je partage ce point de vue-là, une nouvelle fracture, toutes les institutions politiques, les partis, les syndicats, les différentes religions, les différentes associations ont à peu près toutes été traversées par cette question-là. Et c'est très rare qu'une question vienne bouleverser à ce point le champ. Donc, je crois que c'est un événement fondateur et que c'est intéressant d'y revenir. Après, si je reviens...
Vous diriez que la République a capitulé ?
Alors, je ne dirais pas que la République a capitulé. Je crois que quand on revisite le débat dont l'épicentre a été le gouvernement et plus encore le Parti Socialiste... La position du Parti Socialiste, et en réalité la position de Lionel Jospin aussi, n'était pas d'accepter le voile.
Non.
C'était de savoir quel est le meilleur moyen pour lutter contre le voile. Est-ce que c'est d'accepter ces jeunes filles en disant, une fois qu'elles seront à l'école, eh ben, l'école sera plus forte et elles l'enlèveront?
Ça, c'est l'argument de Lionel Jospin.
Ou est-ce qu'il faut, au contraire, l'interdire? Il y a eu ce débat-là, il y a eu la loi de 2004, qui, pour le coup, aujourd'hui, je crois, fait relativement consensus, c'est-à-dire l'idée que la force de la loi, une fois qu'il y a un interdit, en réalité, ça marche.
C'est surtout, oui, la loi de 2004 a prouvé que, en fait, la règle, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus apaisant. Mais il faut quand même se souvenir que Harlem Désir, Julien Drey ont traité de raciste le principal de collège qui ne voulait pas admettre ces jeunes filles avec leur voile en classe. Et il faut replacer ça dans un contexte qui est le fait que, d'abord, les banlieues étaient déjà gangrénées par le chômage à cette époque-là, par un chômage de masse qui touchait des populations qu'on avait laissées de côté, qui du coup étaient en proie à la délinquance. Il y avait déjà des premières poussées islamistes, mais on ne les voyait pas. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est très marrant, au début on parle de Tchador, parce que la référence, c'était l'Iran. C'était l'Iran islamiste qui poussait cette mise en avant d'un islam politique. Depuis, évidemment, les choses ont évolué, mais en fait, elles n'ont fait que s'accentuer. C'est-à-dire, c'est la question de savoir si on doit trouver anodin la mise en avant des religions dans l'espace public comme instrument politique de modification des rapports. Et je pense que là où Gilles est indulgent, c'est qu'il dit le Parti Socialiste voulait trouver un autre moyen de créer le voile. Pas tout à fait d'empêcher le voile, c'était pas tout à fait ça. Il y a eu, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est plus grave pour la gauche, c'est que c'est la gauche à ce moment-là, une part de la gauche qui se met à penser que il faut accepter la religion quand il s'agit des musulmans, parce que ils sont plus ou moins les nouveaux prolétaires. Ça n'a pas posé de problème à droite, puisque la droite avait totalement lutté contre l'école publique en 84. Alors, ils ont retourné leur veste en 89 de façon magistrale, mais d'un opportunisme total.
Mais
ce que je veux dire, c'est dans les partis politiques, là, on parle. Dans les partis politiques. Donc, la droite a retourné sa veste. Le Front National a combattu toute interdiction du voile jusque dans les années 2010 à peu près. Ils ont combattu la loi de 2004. Il faut se souvenir, ils étaient du côté des catholiques intégristes. Donc, c'est la gauche qui s'est fracturée surtout. C'est elle qui a souffert.
Oui,
Gilles, et on va passer au débat.
Non seulement c'est la gauche, mais c'est même plus spécifiquement le Parti Socialiste qui a été l'épicentre de ce débat. En réalité, le gouvernement est resté relativement uni, alors même qu'un certain nombre de ses ministres étaient en opposition à la position de Lionel Jospin.
Et
c'est à l'intérieur du Parti Socialiste que ce débat-là s'est noué. En revanche, si vous lisez le chapitre à partir des archives du livre « Les foulards de la discorde », ce qui est frappant, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la position très majoritaire du Parti Socialiste était une position très ferme, donc réaffirmation extrêmement ferme, et après, avec cette limite, on laisse le gouvernement. J'ajoute juste un dernier mot. Un mot personnel. À l'époque, je commençais ma vie professionnelle, je travaillais avec Pierre Mauroy, premier secrétaire du Parti Socialiste. Et j'étais très frappé par rapport aux souvenirs que j'avais, qui étaient précisément celui que vous évoquez, un Parti Socialiste plus ouvert, de relire des textes dans lesquels Pierre Mauroy, premier secrétaire, était sur une position laïque, très traditionnelle.
Il y avait une fracture première gauche, deuxième gauche qui a commencé à apparaître.
Et puisqu'on parle des acteurs de cet épisode-là, que sont devenues les 3 collégiennes qui avaient été exclues du collège Gabriel Avez à Creil, dans l'Oise? Mais c'est une autre question. On passe maintenant au débat.